Ce matin, je veux partager avec vous sur toujours la dimension de marcher sur le chemin divin. Et je veux simplement dire ce matin déjà à la base que probablement et que je vais vous apprendre rien ce matin. Mais le but de ce matin n'est pas de vous apprendre quelque chose, mais vous donner le goût de quelque chose. J'espère ce matin à travers cette prédication-là, il y a des fois où on a un peu plus d'enseignement, des choses qu'on ressort, peut-être qu'il va y en avoir, mais le but d'abord et avant tout de ce partage ou de ce message ce matin, c'est vraiment de nous amener à avoir le goût de désirer, de vivre quelque chose et dans cette dimension-là, de marcher sur le chemin divin. Je veux parler ce matin du chemin ou le chemin de connexion. Je veux parler de cette importance-là, de ce chemin divin-là, de cette rencontre avec Dieu. Et pour marcher sur le chemin divin, il doit y avoir cette rencontre-là avec Dieu. Je pense qu'il est difficile ou sinon presque impossible de marcher sur le chemin divin s'il n'y a pas d'abord et avant tout ce chemin de connexion. Et il y a ce privilège de nous amener à réaliser que c'est un privilège et une bénédiction. Et la beauté de la chose n'est pas que chacun d'entre nous, Dieu voit bien sûr une généralité, voit un groupe de personnes qui est là, mais la beauté de la chose, c'est que Dieu voit chacun d'entre nous. La beauté de la chose, alléluia, c'est que Dieu connaît chaque personne qui sont dans ce lieu ce matin. Que Dieu connaît votre vie, votre cœur, ce que vous avez passé durant la semaine, de ce que vous vivez à travers ces moments-là. Il sait même ce que nous pensons, ce que nous vivons. Et à travers tout ça, le Seigneur est celui qui veut parler à chacun de nos cœurs. Et Dieu est celui, alléluia, qui veut faire cette œuvre et nous amener sur le chemin de connexion. J'aimerais nous dire que c'est le désir de Dieu de marcher avec nous sur ce chemin-là, que c'est la volonté de Dieu. Et lorsqu'on regarde ça, il y a toute une bénédiction, que toute une valeur. Et lorsqu'on regarde dès la fondation du monde, on réalise dans la Genèse, dans la parole de Dieu, le désir de Dieu et la création même de l'homme. J'ai beaucoup apprécié lorsque M. Saint-Hilaire a donné pendant une série sur création ou évolution, de comprendre qu'est-ce que c'est tout ça, de tout ce qu'on peut entendre. Et bien sûr, on peut croire certaines choses, mais quelle richesse de pouvoir comprendre et le croire que Dieu, alléluia, est celui qui a créé les cieux et la terre, et que de cette base-là, l'être humain n'est pas le fruit d'abord et avant tout de juste le phénomène. Et on a regardé, on a vu, on a toutes sortes de pensées, de pourquoi on croit, est-ce que c'est correct ou est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est même intelligent de croire à la création, le fait que Dieu a créé l'homme et la femme et la terre. Et lorsqu'on regarde tout ça, on découvre que le désir de tout ça a pris naissance dans le désir de Dieu d'avoir une communion, une relation personnelle avec les êtres humains, avec les personnes qu'il a créées. Dans le livre de la Genèse, par exemple, il est dit au verset 8, chapitre 3, le verset 8, ça dit que Dieu avait une communion avec Adam et Ève, que Dieu était celui qui se révélait à eux et qu'Adam et Ève pouvaient parler avec Dieu, qu'ils pouvaient ouvrir leur cœur. Et ça dit à ce moment-là que la voix de Dieu s'est faite entendre et qu'Adam et Ève ont entendu la voix de Dieu. Ça dit qu'ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel, Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Et je pense que cette question-là, cette pensée-là, et l'être humain peut des fois se cacher à travers toutes sortes de choses de leur vie. On a la capacité, déjà là, dans les débuts de la création, la capacité de l'homme et la femme de pouvoir ou de vouloir se cacher et ne pas permettre à Dieu de voir ce qu'ils étaient, leur vie, de tout ce qui pouvait prendre place à l'intérieur de leur cœur à ce moment-là. Mais Dieu va dire à Adam et Ève, « Où te caches-tu, Adam et Ève? Où es-tu? » Où es-tu? Et cette question-là est dans une base de vouloir une relation. C'est comme s'il y a une dimension qui n'est pas dans un jeu dans ce moment-là. Adam et Ève ne sont pas en train de jouer à quelque chose. Ils sont en train de vivre quelque chose. Ils sont en train, alléluia, de vivre quelque chose et dans cette situation-là, de se cacher de Dieu. Mais quelle richesse, quelle bénédiction. Alors qu'ils avaient offensé Dieu, Ça aurait dû être Dieu qui ne veut pas avoir de relation avec eux, mais pourtant, le texte nous donne de voir, alléluia, qu'à ce moment-là, c'est Dieu qui interpelle Adam et Ève. Et j'aimerais nous poser la question ce matin. Probablement, et sinon, quand je dis probablement, c'est jamais un doute, mais dans mon cœur, il y a une certitude que cet appel de Dieu est vrai pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'il y a un désir dans nos cœurs d'avoir cette communion, l'homme et la femme? Et cette question-là est dans un sens de liberté. Chacun d'entre nous a la liberté. Dieu n'oblige personne. Le Seigneur n'est pas celui qui amène l'homme ou la femme dans une obligation, mais il y a un désir. Et c'est tout qu'un honneur que de pouvoir avoir cette communion, cette relation, cette vie avec Dieu. C'est tout qu'un honneur. Dans Ésaïe, chapitre 45, verset 18, il est dit ceci, « Car ainsi par l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée par elle, ne fut pas déserte, pour qu'elle ne fût pas déserte. Qui l'a formée pour qu'elle fût habitée? Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. » Le texte dit qu'il l'a créée et qu'il l'a formée pour qu'elle fût habitée. Afin qu'il y ait l'homme, la femme, qu'il y ait ce que l'on a sur cette terre. Et là, c'est tout qu'un honneur que de ce Créateur. Et à travers la parole de Dieu, il y a plusieurs dans le Nouveau Testament, une invitation à pouvoir le suivre. Par exemple, dans Matthieu 11, 28, ça dit « Venez à moi ». Dieu dit, ou Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos ». C'est une invitation, ce n'est pas une obligation. La vie avec Dieu, la possibilité d'avoir une communion avec le Seigneur n'est pas dans une dimension d'obligation, mais une dimension d'une réponse que Dieu attend de l'être humain, de l'homme et de chacun d'entre nous. Jésus va dire dans Luc 22, le verset 15, et c'est intéressant, il amène une pensée vraiment d'une importance. Ça dit que Jésus a dit à ses disciples, à ce moment-là, « J'ai désiré vivement manger cette pâte avec vous. » Il y a un désir, et le mot, c'est le mot avec ardent. Il y a quelque chose qui est important. Le mot désir, c'est l'idée de convoiter, c'est l'idée de vouloir, d'être désireux, d'avoir un moment avec ses disciples. Je pense que ce qui était vrai pour les disciples, l'est aussi pour chacun d'entre nous. Où Dieu désire, le Seigneur désire ardemment. Il y a ce vouloir, il y a un désir qui est là, et ça dit vivement. Et là, dans le mot « vivement », c'est un peu la même pensée qui est là d'être désireux. Il y a comme une répétition dans le texte qui amène l'importance du désir, qui élève le désir de Christ de prendre ce moment avec ses disciples. Pourtant, c'est un moment de grande intensité. Jésus était pour parler de sa mort à ce moment-là aux disciples, était pour parler le fait qu'il était pour être pris, amené, qu'il était pour être crucifié. C'est un moment intense, d'une grande intensité, mais Jésus va dire, j'ai désiré, j'ai voulu, j'ai été désireux avec ardent, avec un vouloir important de prendre ce moment avec eux. Et dans ce moment-là, le Seigneur, alléluia, est celui qui s'est révélé à eux. Jésus est celui qui a été d'une grande transparence envers ses disciples. Je vais vous dire ceci, on a souvent parlé de Dieu dans notre société, comme quelque chose qui était loin, quelque chose qui était mystique, quelque chose qui était mystérieux. Et je pense qu'on a fait de tout ça quelque chose qui nous a amené, ou plutôt dans la possibilité de cette relation-là, dans une dimension qui était presque inatteignable. Ici, ce n'était pas si mystique que la société ou que le monde ont voulu laisser entendre. Ici, ce n'était pas si noir ou si compliqué tout ça, que d'avoir une relation si intime et personnelle. Dans ce moment-là, Jésus était avec ses disciples. Il n'y avait rien de compliqué dans l'affaire. Et Jésus a juste livré son cœur, ouvert son cœur à ses disciples. Et si cela était aussi vrai pour chacun d'entre nous, et si Jésus envers ta vie voulait simplement être vrai, simplement ouvrir qui il est, te faire connaître qui il est, de te démontrer comment tu es important, comment tu as de la valeur à ses yeux. Dans le texte, à ce moment-là où Dieu veut parler à notre cœur, j'aime beaucoup le texte d'Osée, chapitre 2, le verset 16. Il y a un désir, une révélation qui est là, et il y a une dimension, c'est dit au verset 16 d'Osée 2, « C'est pourquoi voici je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Il y a un sens où dans le texte, Dieu parle du peuple d'Israël, Dieu parle d'eux aussi, je pense, l'attribuer à nous. C'est dit que c'est pourquoi voici, je veux l'attirer à un endroit, je veux l'amener à un moment pour avoir une communion personnelle et intime. Et dans ce moment-là, dans cette situation-là, dans cette particularité-là, il semble que le Seigneur veut se révéler au cœur, veut simplement déclarer. Mais dans la pensée du texte, c'est pas seulement que Dieu veut dire quelque chose, mais dans la pensée du texte, il y a l'idée d'une conversation. Souvent, on prend ce texte-là puis on a l'impression que Dieu veut nous amener ou amène à un endroit, ici le texte parle du désert, puis que Dieu veut simplement dire quelque chose puis s'en retourner. Dans l'idée du texte, c'est pas ça. Dans l'idée du texte hébreu, c'est vraiment une pensée d'une conversation, d'un moment d'intimité où Dieu veut converser avec toi, où Dieu veut parler avec toi, où le Seigneur veut te faire connaître, où le Seigneur veut parler à ton cœur. Et le cœur ici, c'est l'intérieur, c'est la volonté, c'est même, c'est ta pensée, c'est tes émotions, c'est tes sentiments, c'est tout ce que tu es en tant que personne. Le Seigneur veut t'adresser, le Seigneur veut parler. Des fois, on a besoin de comprendre quelque chose. Dieu nous a donné une intelligence. C'est pas pour qu'on pense pas, c'est pas pour qu'on réfléchisse pas. Encore là, on a essayé de dire que la vie chrétienne, et on a essayé des fois d'amener une pensée que la vie chrétienne, si tu réfléchis pas, tu penses pas. Je vais vous dire ceci, bibliquement parlant, ce n'est pas vrai tout ça. Mais en même temps, Dieu nous a donné une capacité de réfléchir, mais Dieu nous a donné aussi un cœur. La possibilité d'avoir un cœur où on a des émotions, des sentiments. Et le texte dit à ce moment-là, alléluia, que je veux l'attirer. Et encore là, le mot quand c'est dit, je veux l'attirer, c'est je veux l'amener à moi. Je veux l'amener vers moi. Je veux l'amener pas au désert. Souvent notre pensée, c'est je vais l'amener dans un lieu. Mais dans l'idée du texte encore là, si je veux l'amener dans un endroit où je vais être seul avec lui, où je vais pouvoir prendre, mais dans ce désert-là, je suis pas en train de l'envoyer au désert, je suis en train de l'attirer là où je l'attends, là où je vais être, là où je vais prendre un moment avec lui, je veux l'attirer, je veux l'amener à moi. Alors, dans l'idée du texte, c'est pas que Dieu, par les situations, par les choses, va te conduire à un endroit où il est pas, mais dans l'idée du texte, c'est vraiment qu'il veut t'amener là où il est, pour être capable de parler à ton cœur, d'avoir un moment intime. Vous savez ceci, les gens peuvent nous parler de Dieu, c'est bien. Les gens peuvent nous enseigner des choses de la parole, c'est excellent. Mais nous devons être capables d'ouvrir nos cœurs. Et je veux simplement vous encourager ce matin à permettre à Dieu, alléluia, d'aller vers lui. Je veux juste que vous puissiez ce matin entendre le désir de Dieu, alléluia, de connecter, de marcher sur ce chemin-là. Et ça, ce n'est pas nécessairement, on peut, comme je dis, apprendre de quelqu'un d'autre, mais c'est aussi entre toi et le Seigneur. C'est aussi entre toi et Dieu, alléluia. Cette communion-là est vraie entre toi et le Seigneur. Et le texte dit qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui va prendre place dans ce désert. Ça dit que là, à cet endroit-là, l'endroit où Dieu est, l'endroit où le Seigneur t'invite, l'endroit, alléluia, où il veut parler à ton cœur, où il veut converser avec toi, le texte dit qu'à ce moment-là, alléluia, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Achor comme une porte d'espérance. Il faut comprendre ceci, que dans le texte d'Osée, le Seigneur est en train de faire référence à quelque chose qui s'est passé dans la vallée d'Achor. La vallée d'Achor, c'est un endroit où Achan et sa famille avaient été mis à mort. On voit ça dans Josué chapitre 2, le verset 24. Dans le texte, ça nous est tout révélé, vous pourrez le lire à la maison. Ça dit qu'à ce moment-là, Josué et tout Israël avaient pris Achan, fils, l'argent et tout ça, et là, ils sont allés dans la vallée d'Achor. Et dans la vallée d'Achor, cette vallée-là était reconnue ou plutôt vue comme un endroit de malédiction, un endroit de mort, un endroit où une famille était morte, un endroit où c'était la désolation. Et le texte dit que là, que ce désert-là, que là où il l'a amené, ce qui semblait être une vallée de désolation, une vallée de mort, que parce que Dieu était là, il était fait pour faire de cette vallée une porte d'espérance, un endroit où Dieu pouvait faire. Et je vais vous dire ceci, ce qui a changé cet endroit-là, c'est parce que Dieu était présent, parce que le Seigneur était là, parce que Dieu voulait entreprendre, parce que le Seigneur voulait simplement toucher leur cœur à ce moment-là. Je l'attirais, je veux parler à son cœur, Dieu veut parler par son Esprit Saint, Dieu veut se révéler à toi, et que dans ce lieu-là, il y ait vraiment la dimension, que dans cet endroit qui peut sembler être un endroit d'affliction, maintenant, alléluia, l'espérance commence à prendre place. La joie commence à prendre place. Le texte dit, alléluia, une porte d'espérance. Et ça dit, et là, à cet endroit-là, là, dans ce désert-là, là où Dieu t'a invité, où Dieu a voulu t'amener à lui, le texte dit, alléluia, qu'elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Et là, il parle de délivrance, il parle de changement que Dieu était en train de les amener, alléluia, dans la terre promise de ce que Dieu avait avec eux. Il y a une invitation où le Seigneur désire avoir cette communion, parce qu'il y a un prix à cette communion-là. Vous savez ceci, des fois on peut, et ça n'a pas toujours été vrai, je vais prendre un exemple qui est que c'est toujours délicat à prendre, là, mais des fois les partis politiques, pour avoir une rencontre avec les ministres, les premiers ministres et tout ça, tu vas aller dans un endroit, tu vas acheter des billets qui des fois peuvent coûter très cher, pour être capable d'aller, de manger un repas. Mais surtout, le but, c'est pas de manger un lunch. C'est être avec le premier ministre. De pouvoir prendre un temps, Et souvent, il y a un but derrière tout ça qui est de se faire connaître, qui est peut-être d'avoir, on a entendu, puis c'est bien là, je suis pas en train de dire que c'est mauvais, on a entendu notre premier ministre qui est allé en France et pouvoir avoir et ramener et de pouvoir parler du Québec pour qu'il y ait des échanges, qu'il y ait de l'argent, que les commerces puissent faire des choses au Québec, qu'on puisse exporter tout ça, c'est excellent. Mais si un prix avait été payé, non pas dans un but de retirer ce que tu peux donner, mais plutôt de simplement être avec lui. Si le prix était simplement pas d'en retirer un but, la réalité, c'est que souvent, lorsqu'un prix est payé, c'est pour avoir quelque chose. Ce n'est pas dans un but, d'abord et avant tout, souvent, de simplement être avec quelqu'un. Mais si Dieu l'avait fait par Jésus-Christ, parce que nos vies ont de la valeur, il y a un prix qui a été payé. Dans Romains, chapitre 3, le verset 23, ça dit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » On ne mérite pas. Je ne mérite pas. On n'est pas de ceux qui ont le mérite de. Ce matin, dans la prière, lorsqu'on était dans le temps de prière, avant la réunion, j'avais une pensée dans mon cœur, « Seigneur, je n'ai pas aucun mérite. Il n'y a rien qui me donnait dans ma vie de pouvoir, de ce que le voile soit déchiré. » Rien dans ma vie donnait les capacités de déchirer le voile du lieu très saint pour pouvoir y entrer. Mais le sacrifice de Christ à la croix a été payé afin que l'on puisse avoir cette communion. Et c'est dit le verset 24, « Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce. » Le prix a été payé pour toi. Ça a été accompli. Il y a la possibilité de venir, de répondre à cette invitation-là. Tu n'as pas besoin de sortir quelque chose, tu n'as pas besoin de payer quelque chose, tu n'as pas besoin de ce que ça vaut quelque chose, dans le sens que tu as besoin de payer. Ça a une valeur, mais la valeur était tellement grande que personne n'aurait pu le payer, mais Jésus-Christ est celui qui le fait. Et ça dit qu'on a été justifié par la grâce, et quel a été le moyen de ce prix-là? C'est par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ce matin, si tu veux savoir quelle valeur tu as, je veux te dire que la valeur de ta vie, de la communion avec Dieu a été au un point tel où ce que Jésus a donné sa vie pour toi. Quelqu'un est mort pour cette relation-là avec toi. Quelqu'un est mort pour cette communion-là avec toi. Vous savez, ceci est la beauté de la chose, c'est que chacun d'entre nous a la même valeur. Devant Dieu, devant le regard de Dieu, encore là dans notre société, on regarde les gens à la valeur de certaines choses, de ce que des fois ils peuvent posséder, de l'influence qu'ils ont dans la société, de comment ils peuvent avoir certaines choses, certains accomplissements à l'intérieur de leur vie. C'est bien tout ça, dans le sens des capacités. Dieu n'est pas contre l'argent, je veux juste vous dire ceci, de tout ça, mais ce n'est pas la valeur. Ce n'est pas tout cela qui amène la valeur de ce que nous valons, de ce que l'on vaut. La Bible dit, alléluia, que Dieu, chacun d'entre nous a la même valeur, qu'on est tous équivalents devant Dieu. Que le sang de Jésus, alléluia, est mort, a été versé pour ma vie. Mais le coût, alléluia, pour ma vie n'est pas moindre du petit bébé qui était là ce matin. C'était pas moindre. Jésus a aussi donné sa vie pour telle et telle personne. Pas pour la personne qui a un certain handicap. Le sacrifice de Jésus-Christ a été la même. Ça n'a pas à faire à ce que l'on peut amener, de ce que l'on peut donner, de ce que l'on peut accomplir, de nos possessions, mais plutôt du regard de Dieu sur nos vies. Et la valeur de Dieu est la même pour chacun d'entre nous. Lorsque Dieu te voit, toi, la valeur de qui tu es, de toi, de qui tu es devant lui, est la même que de chaque personne sur cette terre. Vous savez ceci, alléluia, le Seigneur a fait quelque chose. Si quelqu'un est dans un avion et que l'avion est pour cracher et pour tomber, et qu'il y a des parachutes, mais qu'il en manque un dans la gang, on va souvent donner un à celui qui semble être le plus important, de celui qui est là, si ça serait le président, si ça serait un premier ministre, ça serait. Il est possible qu'on mette certaines pressions, mais je vais vous dire ceci. Dieu, alléluia, a décidé de donner Jésus-Christ pour tout le monde. Il n'y a aucun parachute qui manque à personne. Alléluia. Il y en a un pour chaque individu. Il y en a un pour toi. Il y en a un pour moi. Et alléluia, sont tous de la même valeur, ces parachutes-là. Ils vont tous s'ouvrir, ils vont tous amener à bon port. Personne ne va mourir, personne ne va se cracher, personne ne va se cracher. J'ai eu l'opportunité de faire un saut en parachute. Ma fille m'a payé ça pour mes 50 ans. Quand tu es sur le bord de l'avion, il y a deux choses que tu te dis. La première, c'est « J'ai-tu besoin de ça dans ma vie? » Puis la deuxième chose, c'est « J'espère qu'il va ouvrir. » Mais à travers ça, alléluia, c'est comme il y a quelque chose qui est là pour Jésus-Christ qui nous donne qu'on a de la valeur et on a la certitude que le parachute va ouvrir. C'est dire, alléluia, qu'on doit avoir maintenant à notre tour, prendre du temps avec le Seigneur, d'avoir aussi ce désir-là de connecter. On doit avoir ce désir pour chacun d'entre nous, alléluia, de pouvoir connecter, de pouvoir avoir cette relation-là. Vous savez, je ne suis pas sûr que j'aurais sauté en parachute tout seul, mais la beauté de la chose, c'est que j'ai le privilège de le faire avec ma fille. Elle n'a pas simplement m'offert quelque chose, elle l'a fait avec moi. Et c'est la raison pour laquelle, d'abord et avant tout, je l'ai fait. Pour le faire avec elle. La beauté de la chose, ce n'est pas de seulement faire quelque chose, mais d'avoir le privilège de le faire avec le Seigneur. Que c'est un honneur de savoir que Dieu est celui qui nous entend, que Dieu est celui qui nous connaît, que le Seigneur est celui qui connaît nos cœurs, nos vies. Alléluia, le psalmiste va dire dans psaume 27, le verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie. » Il dit, je demande, il y a quelque chose que je voudrais plus que tout à l'intérieur de ma vie. C'est un des hommes les plus riches, c'est un des hommes importants, c'est un des hommes, il dit, « Je désire ardemment, j'ai un vouloir, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Le texte « je voudrais habiter », c'est « je voudrais être établi, je voudrais demeurer, je voudrais être un habitant de la maison de Dieu. Je voudrais être là où Dieu est, je voudrais être là où le Seigneur est et je voudrais prendre part à ce que le Seigneur veut faire à l'intérieur de nos vies. Et on a besoin de prendre le temps. Il y a un texte dans la parole que j'apprécie, que j'affectionne, qui régulièrement revient à ma pensée. C'est le texte avec Marie. Marthe et Marie vont se retrouver. Jésus va être dans leur maison. Et les deux, alléluia, dans Marthe et Marie, sont devant un dilemme ou devant une situation d'un choix. Et il y en a une qui commence à s'affairer, à vouloir prendre soin de faire le lunch, le repas. D'ailleurs, ça sent bon, puis ça commence à nous donner la faim, non? Mais Marthe et Marie étaient là et ils étaient en train de faire les choses. Et Marthe était affairée à faire le travail, la nourriture. Mais dans ce texte-là, il y a quelque chose qui prend place. Alors que Marthe est en train de s'affairer, Marie est au pied de Jésus. Elle est au pied du Seigneur à ce moment-là. Et à un moment donné, Marthe va vers Jésus. Puis elle dit, Jésus, tu peux-tu dire à Marie, ma sœur, qu'elle arrête d'être là, puis à rien faire, puis à rien accomplir, puis dis-y donc qu'elle vienne dans la cuisine avec nous autres, puis qu'elle vienne m'aider pour qu'on puisse te faire un bon lunch. Puis à ce moment-là, Jésus va dire à Marthe, va dire ceci dans Luc chapitre 10, verset 42. Il dit à ce moment-là, est-ce que c'était pas important de faire le repas? Bien sûr, c'était important, mais dans ce moment-là, Jésus va dire à Marthe, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne, qui lui sera point ôtée. De connecter avec Dieu, c'est souvent la bonne part, la bonne chose. Vous allez être d'accord avec moi que bien souvent, on est pris à tellement et affairés, à tellement de choses, tellement de responsabilités, tellement d'activités, tellement de choses à faire, que bien souvent, on a besoin de choisir de connecter avec Dieu. Que tellement de fois, je me sens dans ma vie comme Marthe. Je me sens à tellement de choses à faire, tellement de choses à accomplir, tellement de neige à déblayer. Tellement de choses qu'on a besoin, de responsabilités, tellement d'affaires à voir, tellement de choses qu'on a besoin de regarder, à penser. Mais des fois, j'ai besoin de me recentrer et prendre conscience que l'une des choses les plus importantes, c'est de connecter, d'avoir cette communion avec Dieu. C'est un privilège, un honneur de pouvoir connecter avec le Seigneur. J'aimerais vous parler de ce jeûne dans lequel on s'apprête cette semaine. Pendant ces journées-là, on veut être capable de pouvoir prendre du temps avec le Seigneur. Je vais vous dire que le jeûne n'est pas une méthode de négociation. Ce n'est pas un moment où on dit on veut prendre un temps de jeûne et prière parce qu'on veut négocier pour que Dieu fasse des choses. Je vais vous dire ceci, mon cœur à moi n'est pas d'un sens de « Seigneur, on va prendre un temps dans le jeûne parce qu'on veut plus que tu nous bénisses à l'Église, parce que je veux avoir plus dans ma vie, parce que je veux que tu me donnes plus. » Le jeûne n'est pas un moyen d'acquérir quelque chose de plus de négociation. De temps en temps, on a cette mentalité-là, puis c'est correct dans notre société de négocier les choses, on a besoin de le faire, mais ce n'est pas un sacrifice, ce n'est pas une négociation, c'est un temps où on veut prendre avec le Seigneur. C'est un moment pour rechercher la volonté de Dieu. Encore là, le but pour moi cette semaine n'est pas de dire, Seigneur, tout ce que j'ai besoin de faire, tout ce que je voudrais faire, tout ce qu'on a planifié, on veut que tu les bénisses. Seigneur, je veux qu'à travers ça, je ne veux pas juste te présenter nos besoins. Je ne veux pas te demander d'abord et avant tout à Dieu que Dieu bénisse nos projets. Mais je veux que ça soit un moment, j'ai un désir que ça soit un moment pour entendre, pour découvrir ce que Dieu a pour ma vie, ce que Dieu a pour son Église et de ce que lui veut bénir. Peut-être de se mettre au diapason de Dieu, peut-être de se mettre au diapason du Seigneur, de dire, Dieu, révèle-toi nos vies durant cette semaine. Parle-nous, Seigneur, de ce que donne-nous de découvrir ta volonté, tes projets pour la nouvelle année, pour nos propres vies, de saisir et de marcher dans ce que tu as pour nous. Et pour cela, on a besoin de vivre un moment d'intimité. Je vais inviter les musiciens à pouvoir s'approcher. Un moment, alléluia, où on veut rechercher sa volonté, mais un moment où on veut se trouver avec humilité. Un moment, alléluia, où on veut se trouver dans la présence de Dieu et de pouvoir se tenir devant le Seigneur, de réaliser, alléluia, comment Dieu est celui qui le fait, comment Dieu est celui qui l'accomplit. On va chanter bien, alléluia. Alléluia. De ce qu'on peut simplement se tenir, de venir avec humilité. C'est tout qu'un privilège que de pouvoir se tenir devant le roi des rois, le créateur de toutes choses, devant celui qui a donné sa vie, de savoir que le Saint-Esprit est celui qui veut nous parler, que le Seigneur est celui qui veut se révéler à nous, qu'il est le grand Dieu, le grand Seigneur, et de ce qu'on a de pouvoir venir et accomplir juste pendant que les musiciens vont chanter, pas chanter, mais jouer quelque chose doucement là au piano, le chant. Je veux juste reprendre une histoire. Peut-être certains la connaissent, vous l'avez déjà entendue, je l'ai fait ici. Je veux juste nous rappeler à quelque chose, nous ramener à quelque chose. Parce qu'il y a besoin d'être central à l'intérieur de nous. Puis en même temps, à travers cette histoire-là, peut-être nous défier. Peut-être juste nous ramener, nous recentrer. Je sais que des fois, on est tellement pris à tellement de choses, qu'on a tellement de... Et cette histoire, alléluia, c'est un homme qui s'appelle Joe. Et cet homme Joe, c'est quelqu'un qui a connu le Seigneur, ça fait un certain nombre d'années. Mais au cours des années, sa vie a pris toutes sortes de dimensions, toutes sortes de responsabilités, toutes sortes de choses ont pris place à l'intérieur de sa vie. Où à un moment donné, il se rend compte que sa vie, malgré tout ça, il y a un sens qui est vide. Il est occupé, il est affairé, c'est quelqu'un qui est béni, il a tout ce qu'il a besoin, il a tout ce qu'il a financièrement, tout est correct à l'intérieur de sa vie. Mais il semble qu'il y a quelque chose qui réalise qu'il a perdu avec Dieu de sa communion. Et alors qu'il est à la maison, il s'agenouille dans un endroit dans sa maison. Puis il dit, Seigneur, je sais qu'à travers les années, je ne sais pas tout ce qui a pris place, mais je réalise que j'ai plus dans ma vie ce que j'avais avec toi. De ma communion, de mon intimité avec toi, je n'ai plus ce que j'avais auparavant. J'ai perdu certaines affaires, mon intimité avec toi, de comment je pouvais prendre du temps avec toi. Seigneur, comment je pouvais prendre un moment, tu parlais à mon cœur, tu m'encourageais. Puis le Joe, à un moment donné, a dit, Seigneur, je suis prêt à donner certaines affaires, je suis prêt à ramener à certaines choses, je suis prêt à faire certaines affaires. Puis Joe commence à dire, oh Seigneur, je serais prêt à donner ma maison, Seigneur, pour avoir. Puis d'un coup, Joe entend dans son cœur le Saint-Esprit qui lui dit, Joe, t'as une maison, t'es prêt à me la donner, je vais la prendre. Donne-moi ta maison. Joe dit, Seigneur, c'est correct. Tu peux la prendre, ma maison. On va aller habiter au chalet. Joe entend dans son cœur, Joe, t'as un chalet. Est-ce que tu es prêt à me le donner, ton chalet, Joe? Est-ce que tu es prêt à le remettre entre mes mains? Joe a dit, Seigneur, si tu le veux, mon chalet, prends-le. Je te le donne. On a de l'argent en banque qu'on va prendre, puis on va louer quelque chose, on va être capable de se louer une belle maison, tout ce qu'on a. Joe entend dans son cœur, Joe, tu as de l'argent en banque? Est-ce que tu es prêt à me la donner, Joe, cet argent? Et plus Dieu demandait à Joe certaines affaires, plus dans son cœur, Joe commençait à sentir un peu démuni. Joe commençait à sentir qu'il y a des choses qui s'enlevaient à l'intérieur de sa vie. Joe a dit, Seigneur, tu la veux, mon argent, prends-la. Je te la donne, si t'as l'heure. Il dit, Seigneur, la seule affaire, c'est, je ne sais pas ce que je vais faire avec ma femme, mes enfants, ou qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va. Puis Dieu dit, Joe, tu as une femme, tu as des enfants. Je veux que tu me les donnes, Joe. Puis Joe s'est mis à pleurer. Puis commençait à sentir tellement prendre tout ce qu'il y avait. Joe a dit ceci, cette parole-là. Seigneur, tu m'as tout pris. Tu as pris ma maison. Tu m'as demandé ma maison, je t'ai donné. Tu m'as demandé mon chalet, je t'ai donné. Mon argent. Maintenant, tu demandes ma famille. Ceux que j'aime, ceux que même tu m'as demandé de prendre soin. Tu me demandes ma famille. Il dit, Seigneur, je te la donne. Il dit, Seigneur, j'ai plus rien, je suis tout seul. Le Seigneur a dit à Jojo, est-ce que je peux t'avoir, toi? Est-ce que je peux t'avoir, toi, Joe? Est-ce que tu es prêt à me donner vraiment entièrement ta vie? Joe a dit, Seigneur, je reconnais que j'ai plus rien. Puis que, Seigneur, si tu veux ma vie, je suis prêt à te le donner, à avoir cette communion-là, cette intimité, cette relation avec toi, Seigneur. Je suis prêt à ce que tu as donné. Puis là, Joe a commencé à comprendre que ce que le Seigneur demandait à Joe, Dieu l'avait déjà fait pour lui. Parce qu'il avait donné son propre fils pour sa vie, pour avoir une communion avec lui. Alors Joe dit, Seigneur, je te reconsacre ma vie, je te donne ma vie, je veux juste vivre, je veux vivre pour toi, puis je veux être capable de juste te plaire, avoir une connexion, une intimité avec toi. Puis à un moment donné, le Seigneur a dit à Joe, tu sais Joe, ta maison, j'en ai pas vraiment besoin. Fait que ton chalet, Joe, là, j'en ai pas vraiment besoin. Puis ton argent, puis ta famille. En fait, Joe, mon argent, j'en ai pas vraiment besoin. Puis ta famille, ben, tu sais comment je les aime. Alors maintenant, Joe, je te demande qu'à travers moi, à travers ma communion, la connexion, la relation qu'on a ensemble, tu prennes soin d'eux. Et Dieu dit à Joe, Joe, j'aimerais cependant que tu te rappelles une chose. C'est que tout ça m'a appartenu. Qu'un jour, tu me les as donnés. Que ça m'appartient, que tu me les as. Alors maintenant, je suis prête de te les prêter. Que tu en bénéficies. Je veux te bénir avec ce que tu as. Mais je ne veux pas que ça prenne la place que ça devrait avoir entre moi et toi. Que ça ne devienne plus un obstacle, mais que ça soit un moyen pour bénir, pour prendre du temps avec moi. Que dans ta maison, il y ait un endroit où tu peux prendre un moment avec moi. Que tu ne fasses pas tout, que tu bâtisses, que tu ne vives pas pour tout ça. Puis que tout ça t'empêche de prendre un moment avec moi. Que ton travail, que ton argent, que ton chalet, que c'est bien que tu aies du plaisir. Joe, je veux que tu puisses te reposer, prendre un temps de repos, que tu puisses bénéficier de cet endroit-là. Et je veux que dans cet endroit-là, tu te rappelles que je suis là avec toi. Que je veux avoir ce moment avec toi. Et ce matin, j'aimerais nous défier chacun d'entre nous. Où en es-tu avec ta connexion avec le Seigneur? On va fermer nos yeux, pencher nos têtes un instant. Je ne veux pas mettre personne à la gêne aujourd'hui. Mais t'es peut-être dans ce lieu aujourd'hui, c'est entre toi et le Seigneur. Tu sais où tu es. Peut-être que t'as déjà invité Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur, ton Seigneur. C'est toi et Dieu qui sais là où tu es. Et c'est ça qui est important. Mais aujourd'hui, tu veux dire, Seigneur, je veux avoir cette communion vraiment, cette connexion. Peut-être tu réalises que comme Joe, tu t'es éloigné, toutes sortes de choses qui ont pris place à l'intérieur de ta vie. Et que ce matin, tu veux dire, Seigneur, je veux vivre cette communion, cette relation avec toi. Et que peut-être tu aurais envie qu'on puisse prier avec toi, qu'on puisse prier pour toi. J'aimerais avoir le privilège de le faire ce matin. Je ne veux pas te gêner, tu as la liberté de le faire ou de ne pas le faire à cet instant. Si ce matin tu dis, je veux rétablir cette communion-là, je réalise, je m'en suis éloigné, moi. Ou encore aujourd'hui, je vais inviter Jésus-Christ comme mon sauveur, mon Seigneur, ce matin. Que si juste tu voudrais lever la main, qu'on puisse prier pour toi. Oui, merci beaucoup. Oui, merci. Merci. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci. Merci beaucoup. Oui, merci. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre? Soyez sans gêne. Oui, merci beaucoup. Merci. Plusieurs mains. Oui, merci, sœur. Merci, frère. Est-ce qu'on peut se tenir debout ensemble un instant? Je vais faire quelque chose. Encore là, tu peux être bien à l'aise. On va chanter ce chant ensemble ce matin, en terminant. Mais je veux juste permettre de quelque chose. Si tu as envie aujourd'hui, alors qu'on va sortir chanter ce chant, ça dit dans ce chant-là qu'on va chanter, le titre c'est...
Viens à l'autel.
Pardon? Viens à l'autel, c'est ce qu'on va chanter, frère. Ce chant, nous, c'est une invitation. C'est une invitation à venir, alléluia, devant le Seigneur. Ça dit où tu te sens blessé, brisé, accablé par le poids du péché, Jésus t'appelle. Arrives-tu au bout de toi-même? Veux-tu goûter aux sources de vie? Jésus t'appelle. Ce matin, j'aimerais que tu puisses réaliser. Des fois, il y a des choses qui peuvent, mais ce qu'on peut juste dire aujourd'hui, Jésus, alléluia, tu es celui qui nous appelle. On veut juste être devant toi et je veux répondre à cet appel. Si juste le goût, tu peux être resté à ta place, tu peux. Et si tu as le goût juste de t'avancer, de chanter ce chant, comme une démonstration, il y a juste le goût de venir devant le Seigneur ce matin. Alléluia. Pour dire, Jésus, aujourd'hui, c'est ce que je veux faire. Durant cette semaine, je veux connecter avec toi. Lundi, je veux que tu sois mon Créateur. Je reconnais que tu es Dieu. Je veux que tu sois mon Père, mendi. Je veux que tu sois mon Tout-Puissant, mon Maître et mon Berger. Et je veux avoir cette communion avec toi. Quoi que ce soit, si tu as le goût de venir ce matin, juste devant le Seigneur, prends ta liberté, fais-le. Et chantons ce chant ensemble. Alléluia.